Je vous invite à tourner avec moi dans l'Évangile de Matthieu, comme on l'a mentionné tout à l'heure, au chapitre 28. Mais avant de commencer ce matin à regarder la parole, j'ai deux petites entrevues que je veux faire avec vous pour avoir des témoignages, avoir des nouvelles aussi. Alors, j'aimerais inviter M. Boniface, Chavanne Boniface, à venir me rejoindre à l'avant. Où est-ce qu'il est, Chavanne? Oui, Chavanne, si tu veux venir me rejoindre. Chavanne arrive d'un voyage en Haïti, et donc on a pensé que c'était une bonne idée qu'il vient nous partager un petit peu ce qu'il a vu, ce qu'il a vécu là-bas. C'était la première visite qu'il allait faire là-bas. Il y a encore de la famille, il y a des gens qui l'aident, des gens qui l'aiment là-bas. Et je ne sais pas dans quel état tu es, je ne veux pas te mettre sur la sellette, mais en même temps, c'est important pour nous juste que tu nous donnes de tes nouvelles puis que tu nous partages ce que tu as vu là-bas, tout ça. Tu es arrivé quand?
Ah bien, je suis arrivé mercredi. Je suis parti mercredi avant. Donc,
une semaine?
Je faisais une semaine là-bas. Et puis, je peux vous dire, avec les yeux humains, qu'est-ce que j'ai vu là-bas, c'est probablement indescriptible. Il fallait être sur place pour voir qu'est-ce qu'on voit à la télévision. C'est une partie de la réalité. Et qu'est-ce que j'ai vu là-bas? Moi, pendant que j'étais dans l'avion, et puis j'ai vu des tentes dans une place où c'est au milieu de nulle part.
Pas de service, pas de
rien. Rien du tout. Il n'y a pas de maison. Puis j'étais vraiment, j'ai dit, mais ça fait tellement longtemps que c'est comme ça. Et puis, des gens sont encore là. Et puis, arrivé un petit peu plus loin, et même quand on descend à l'aéroport, c'est des tentes un peu partout. Et des gens dans la misère. Et malgré ça, j'ai vu des gens vaquer à leur occupation. Moi, personnellement, qui viens d'ici, puis je voyais que ce n'était pas normal.
Qu'ils reprennent la vie, c'est ça que tu faisais?
C'est pas normal. Je voyais que ce n'était pas normal. Et puis, mon voyage avait un petit peu des sentimentales aussi là-dedans. J'ai pu passer devant certaines places que j'avais connues depuis mon enfance, qui sont complètement rasées, puis d'autres qui sont complètement, ben, on peut dire, à genoux. Et puis, c'est même pas déblayé encore. Et puis, jusqu'à présent, il doit y avoir des gens en dessous encore qui sont là-dedans. C'est terrible. Et puis, je me demande, quand on parle d'Haïti, c'est comme si Haïti, c'est Port-au-Prince. C'est comme si il n'y a plus de monde encore qui reste dans les villages. Et tandis que dans les villages, c'est tellement beau. J'ai vu, c'est vert quand je suis allé.
Tu veux dire que les gens sont tous en ville?
Les gens sont tous en ville.
Ils restent en ville.
Ils restent en ville.
Malgré tout.
Il n'y a pas moyen de les faire sortir de là. Les rues sont pleines. Si vous avez l'habitude d'aller à Sainte-Catherine, quand la rue est fermée, c'est rien à comparer à ce qui se passe là-bas. Donc, l'effet juste de sortir pour aller d'une place à une autre, c'est déjà un cauchemar.
Comment tu as jasé avec des chrétiens là-bas? Est-ce que tu as de la famille là-bas qui sont chrétiens? Tout ça?
Et justement, j'ai eu la satisfaction d'avoir deux de mes, disons, un neveu et une nièce. La nièce était déjà chrétienne.
D'accord.
Mais j'ai eu un neveu qui vient juste d'être converti.
Là, après le séisme?
Oui. Disons, un petit peu avant le séisme.
Ouais, d'accord.
Et puis, ça a renforcé encore. Je peux dire, là, maintenant, là, je le vois, il est tout fait, tout flamme. Puis, c'est beau de le voir aller.
Comment ils font pour garder la foi après le séisme? Parce que c'est ça que tout le monde ici se dit. Est-ce que j'aurai encore la foi après ça? Comment eux, ils font pour garder la foi après
le séisme? Je peux vous dire que tout le monde, là, j'ai entendu une émission des gens qui sont passés à la télévision pour dire que Haïti, c'est le vaudou. Moi, là, c'est pas ça que j'ai vu. Je ne sais pas s'il y a certaines personnes qui veulent faire de la publicité pour ça, mais ce n'est pas ça que j'ai vu en Haïti. Et dans le temps où Haïti, ça allait mal, il y a beaucoup de gens qui ont prié pour Haïti. Et puis, moi, qu'est-ce que j'ai vu? Partout où j'y vais, des gens sont en train de parler de Christ. Sans oublier, qu'est-ce qui vient de passer, puis leur misère. Puis je vois, les églises sont à terre. Les gens sont en train de se retrousser les manches.
Mais ça ne les amène pas à abandonner la foi.
Ça ne les amène pas à abandonner. Donc c'est ça qui est encourageant. Et je pense qu'Haïti a besoin de prière, et puis il n'y en aura jamais assez.
Quand on s'est rencontrés avant que tu ailles là-bas, puis on jasait avec Charlot, tout ça, puis avec les gars du conseil, puis on vous demandait qu'est-ce que nous, on peut faire, votre réponse, essentiellement, c'était prier. On va parler de la prière dans un instant, mais est-ce que après une visite comme ça, tu dis non, il y a d'autres choses qu'on peut faire?
Je peux vous dire que présentement, tout est au ralenti. C'est comme si il y a beaucoup de promesses qui ont été faites, mais en réalité, je ne pense pas que l'argent rentre, parce que moi, personnellement, je ne vois rien qui s'est fait. Il n'y a rien qui se fait. C'est comme si on attend quelque chose. Et il parle qu'il va avoir l'élection d'un président et comme tel. Et moi, je me demande si c'était vraiment ça, le besoin d'Haïti présentement, c'est d'élire un autre président. Je ne sais pas c'est quoi. Là.
Est-ce qu'on peut que les choses bougent?
Oui, je me demande si on peut prier pour que les choses bougent, parce que la communauté internationale qui ont promis de l'argent, et d'après ce que j'ai entendu, il n'y a pas beaucoup de monde qui ont donné. L'argent n'est pas débloqué encore. Okay. Donc, c'est difficile au point de vue humain de fonctionner comme ça, parce que les gens...
Donc, on prie pour que ça bouge, on prie pour que l'aide se rende. Quelle autre requête tu as pour nous?
Surtout pour prier pour les gens, pour que les gens n'abandonnent pas la foi.
D'accord.
C'est aussi simple que ça.
Okay. On va prier tout de suite, d'accord? Merci. Seigneur, notre Dieu, je veux te remercier pour mon frère Chavanne, Seigneur. Merci pour sa foi. Merci, Seigneur, qu'après avoir vu tout cela, vu toute cette misère, Seigneur, son regard ne se détourne pas de toi. Merci, Seigneur, pour les âmes que tu sauves là-bas, malgré ces circonstances atroces. Père, nous voulons t'amener ce peuple qui souffre, Seigneur. Certainement qui souffre spirituellement, mais qui actuellement, Seigneur, souffre physiquement de désorganisation, de pauvreté, de misère. Père, nous voulons te demander de faire bouger les choses là-bas. Aie pitié des enfants, Seigneur. Aie pitié des femmes qui sont là. Aie pitié des hommes qui souffrent là-bas, Seigneur. Viens encourager nos frères et sœurs qui voient les choses de leur famille, qui ne bougent pas là-bas, Seigneur. Viens faire grâce au Dieu. À cause de ta bonté, à cause de ta grâce, à cause de ta justice, parce que tu es infiniment bon, Seigneur, viens manifester ta bonté envers Haïti et que nous entendions dire, Seigneur, qu'enfin les choses bougent là-bas. Merci, Père, pour les bonnes nouvelles que nous recevons sur le plan spirituel. Tu sauves encore aujourd'hui et tu soutiens la foi de ceux qui croient en toi, Seigneur. Sois béni, ô Dieu. Sois béni pour cet exemple que les frères et sœurs haïtiens là-bas nous donnent par leur persévérance, parce qu'ils ne renient pas ton nom, Seigneur. Ils sont pour nous des exemples incroyables. On te demande de mettre ta bonne main, Seigneur, et de venir soutenir la foi des frères et sœurs ici qui ont de la famille là-bas, qui souffrent, Seigneur, qui souffrent, Père. Viens soutenir leur foi. Viens les encourager. C'est dans le précieux nom de Jésus-Christ qu'on te prie. Amen. Amen. Merci, Chavan. Alors, on va continuer à prier. Oui, Marcel. Tout s'en va là-bas. OK. Mais on peut penser que les parents n'achèteront pas de cadeaux de Noël cette année, hein? Et ça serait bien qu'il y ait des enfants qui en reçoivent. Merci, Marcel. Merci. J'aimerais inviter maintenant sur un autre ton complètement Jaime Solano, le pasteur Jaime Solano, avec Herman à venir. On a de la visite qui vient de loin, non seulement d'Haïti, mais un peu plus loin encore. Et on a le pasteur Jaime Solano qui est ici. Pasteur Solano, c'est avec lui que Antonio et Hélène Bascunan travaillent là-bas. Bonjour, bienvenue. Bonjour. Je vais te laisser le micro pour le partager. Juste un mot d'introduction. Donc, c'est avec l'Église qui est conduite par le pasteur Solano que l'Église, que Antonio et Hélène travaillent. C'est comme la maison-mère, l'Église-mère qui envoie des projets d'implantation d'Église. Et donc, nous, on est loin, hein? Nous, on soutient avec la prière, on soutient avec des lettres d'encouragement, mais sur le terrain, là-bas, lorsque les choses sont difficiles, ça prend des ouvriers, ça prend du support, ça prend du conseil. Et c'est vraiment l'Église qui est conduite par le pasteur Solano qui est Antioche. D'accord? Si vous pensez au livre des Actes, c'est Antioche pour la famille Bascunan et le ministère que Dieu les a appelés à faire là-bas. Et d'autres personnes de l'Église qui sont allées là-bas aussi. On a Jenny qui est allée là-bas. Est-ce que Jenny est ici? Es-tu là, Jenny, juste lever la main?
Non.
OK. Elle est à Québec, je m'excuse. Alors, c'est ça. Elle est allée là-bas à l'Église du pasteur Solano. Alors, on aimerait ça juste avoir quelques nouvelles. Est-ce que vous pouvez, en 2 minutes, nous partager votre conversion, votre histoire à vous? Oui, juste un instant, juste un mot de témoignage. Je vais te laisser faire la traduction.
Muchas gracias por estar acá. Para mí es un gozo.
Merci beaucoup pour me permettre d'être ici. Pour moi, c'est une joie.
C'est bon.
On était au Québec quand même, là.
Yes. Effectivement, je suis le pasteur Jaime Solano de l'Église biblique baptiste de Viña del Mar, Chile.
Tel qu'a dit Yannick, je suis le pasteur Jaime Solano de l'Église biblique baptiste de Viña del Mar.
Antonio y Helen Bascuñán trabajan con nosotros allá para fundar iglesias en distintas partes de la región de Viña del Mar y Valparaíso.
Antonio y Helen trabajan con nosotros para fundar des églises en la región de Viña del Mar y Valparaíso.
Y en estos momentos ellos están en la ciudad de San Felipe, a 2 horas al este de Viña del Mar.
En ce instant même, ils se trouvent à San Felipe, a 2 horas de Viña del Mar.
Oren por ellos. En estos días, al hermano Antonio le van a operar uno de sus ojos por un problema.
Priez pour eux, car Antonio va être intervenu chirurgicalement. Va faire une opération médicale à ses yeux.
Y oren para que Dios también les dé sabiduría en trabajar y llegar al corazón de la gente y ganarles para el Señor.
Priez aussi pour que le Seigneur accorde la sagesse pour qu'il puisse aller droit au cœur des gens.
En lo personal, yo me convertí a la edad de 12 años en Viña del Mar, en la misma iglesia donde pastoreo.
Et personnellement, j'ai connu le Seigneur, puis je suis converti à l'âge de 12 ans à la même église dont je suis pasteur maintenant.
Hace 26 años atrás.
Ça fait déjà 26 ans.
Esta iglesia en Viña del Mar fue fundada por un misionero norteamericano.
Cette église était fondée par un missionnaire américain.
Y la primera persona que se convirtió bajo su ministerio fue mi mamá.
La première personne convertie sous son ministère, c'était ma mère.
Por supuesto, después llegué yo.
Après cela, je suis arrivé au Seigneur.
Amen.
El 15 de marzo de 1984, yo acepté al Señor en mi corazón como mi Señor y Salvador personal.
Le 15 mars 1984, j'ai accepté le Seigneur Jésus-Christ comme mon sauveur personnel.
Unos años después, cuando tenía 15 años, en un campamento cristiano,
après ça, à 15 ans, dans un camp chrétien,
tomé la decisión de dedicar mi vida al ministerio de tiempo completo.
Dans ce camp, j'ai pris la décision de destiner ma vie au service du Seigneur à temps plein.
Y al final de ese año ya estaba predicando en la iglesia.
À la fin de cette même année, j'ai commencé à prêcher dans l'église.
Donc, comme prédicateur laïque.
À l'âge de 15 ans. Là.
Yes. Okay. Merci beaucoup. Okay. Thank you. Muchas gracias.
Le switch rescolé. 57 ans quand même. Là.
Luego, hace 20 años atrás, que trabajo como... hace 20 años atrás que estoy trabajando a tiempo completo para la iglesia.
Depuis 20 ans, je travaille comme pasteur à temps plein à l'église.
Serví 5 años como copastor de la iglesia donde pastoreo actualmente.
Depuis avoir servi 5 ans comme copasteur.
Y hace 15 años atrás que soy el pastor principal de la iglesia.
Depuis 15 ans, je suis le pasteur senior de la même église.
Nuestra iglesia es una iglesia con una visión misionera.
Notre église a une vocation missionnaire.
Ya hemos establecido dos congregaciones.
Nous avons établi déjà deux congrégations.
Una congregación en el sur de Chile, a 8 horas al sur de Chile.
La première au sud du Chili, au sud de Viña.
Yes.
À 8 heures de Viña del Mar, dans le sud du Chili.
Es una iglesia que queda en Monte Águila y la pastorea un hermano que se llama Yalil.
Cette église, son pasteur, c'est un frère appelé Yalil. La place s'appelle Monte Águila.
Este año lo establecimos como pastor a tiempo completo allá.
Cette année, il est devenu le pasteur principal de cette église.
Él es un ex musulmán convertido hace 10 años en Chile.
Lui est un ex musulmán converti au Chili au Seigneur.
Oren por él, porque Dios mediante, en unos 5 años más, él tal vez vaya como misionero a Marruecos, que es su país natal.
Priez por lui, parce que probablement dans 5 ans, il va partir como misionero a Maroc, son pays de naissance.
También estamos trabajando en San Felipe con los Bascuñán.
Aussi, nous travaillons à San Felipe avec les Bascuñán.
Y una vez que la iglesia esté establecida,
lorsque l'église va être établie,
queremos continuar estableciendo iglesias en todo el área de la quinta región primeramente.
Nous voulons continuer cette processus de fonder ces églises dans toute la région de la cinquième région.
Luego en otras partes de Chile.
Après ça, dans d'autres parties du Chili.
Y si Dios nos lo permite, hasta lo último de la tierra.
Et si le Seigneur nous le permet, jusqu'aux confins de la terre.
Muchas gracias.
Pas besoin de traducción, c'est là, no sé.
Thank you. Merci beaucoup.
Merci beaucoup pour votre témoignage. Merci. Merci.
Alors on peut prier, c'est vraiment une bénédiction extraordinaire. Des fois, on a des missionnaires qui sont envoyés sur des champs missionnaires et on n'a pas de station de base où ils vont avoir un support sur place. C'est extrêmement difficile dans ce temps-là, mais ça fait des années que j'entends le témoignage de cette assemblée, de notre frère le pasteur Solano, comme soutien, comme support, comme conseil, pour envoyer même des ouvriers soutenir les Bascuñán. Merci beaucoup pour votre ministère envers eux. On va tourner ensemble dans Matthieu 28, comme je le mentionnais tout à l'heure. Et on va aller ensemble dans un mot de prière. Père éternel, nous sommes assemblés devant toi ce matin pour comprendre ton plan. Pour saisir comment tu travailles, Seigneur. Nous sommes bénis d'entendre des témoignages de ce que tu es en train de faire un peu partout sur la terre, Seigneur. Malgré les épreuves, malgré les souffrances, malgré la douleur, tu n'as pas abandonné ce monde, Seigneur, et tu sauves encore aujourd'hui. Tu établis, Seigneur, des églises un peu partout sur la terre, encore aujourd'hui, Seigneur. Père, je veux te demander ta grâce pour cette assemblée, que nous puissions saisir ce que tu attends de nous, individuellement, personnellement, puis comme assemblée, Seigneur, le rôle que tu nous appelles à jouer dans cette œuvre, dans cette grande mission que tu nous as confiée, Seigneur. Je te prie, Père, de nous aider à travers la série qu'on est en train de faire à comprendre comment nous avançons, comment nous entrons dans cette œuvre, comprendre comment nous travaillons ici, Seigneur. Je te prie, Père, pour ceux et celles qui regardent un peu tout cela passer et qui cherchent leur place, qui cherchent leur rôle au sein de cette assemblée, qui cherchent à comprendre comment nous travaillons ici, Seigneur, pour honorer ta parole, pour bâtir cette église locale qui va rayonner comme cette assemblée de Viña del Mar, Seigneur. Afin qu'un jour, nous aussi, nous puissions à nouveau envoyer des ouvriers, comme Hugo est en train de le faire à Rivière-du-Loup, Seigneur. Mais d'autres encore, et d'autres missionnaires. Père, je te prie de saisir nos cœurs et notre intelligence afin que nous désirions dans notre âme entrer dans ton projet. Qu'il y ait cette soumission de cœur, cette passion pour ton royaume, pour ton œuvre, Seigneur. Merci, Père, pour les âmes qui sont sauvées actuellement autour de nous, au milieu de nous. Merci, Père, pour ceux qui saisissent Christ. Merci, Père, pour ceux qui se préparent pour passer par les eaux du baptême, pour témoigner publiquement de leur identification avec toi, Seigneur. Merci, Père, pour les disciples qui sont formés au sein de cette assemblée, Seigneur. Et merci, Père, pour ceux que tu vas appeler maintenant, pour entrer dans le champ missionnaire, pour entrer dans l'œuvre à temps plein un jour. C'est dans le précieux nom de Jésus-Christ que nous te prions. Alors, notre série, Le Chrétien Upgradé, tire à sa fin. Dimanche prochain, je termine la série. Et je veux commencer à réviser un petit peu ce qu'on est en train de voir. Et donc, j'ai préparé deux petites acétates PowerPoint pour essayer juste de réviser un peu la série qu'on est en train de faire. Je vous rappelle que le but, l'objectif de cette série est que vous puissiez saisir les choses que nous mettons de l'avant, les choses que nous mettons devant vous pour avancer comme assemblée, afin que vous puissiez participer avec nous avec ce qu'on est en train de bâtir, dans ce qu'on est en train de mettre en place. Dans la première prédication, le premier épisode, on a appelé ça le perfectionnement. Et ce que j'ai voulu démontrer à partir d'Éphésiens 4, c'est que Dieu a un projet. Dieu ne fait pas que sauver, ce qui serait déjà extraordinaire. Mais Dieu a un plan pour notre transformation. Ce plan-là passe par l'Église locale. Dieu a donné à l'Église des hommes qui sont appelés à travailler au perfectionnement des saints. L'upgrade dont on parle, c'est le perfectionnement des saints, selon Éphésiens 4. Et donc, notre rôle à nous, les anciens de l'Assemblée, que ce soit Alexandre, Michel, Robert, moi et tous ceux que Dieu appellera par la suite, notre rôle à nous est de tout mettre en place pour le perfectionnement des saints. Ça, c'est notre rôle. On vous présente cela afin que vous puissiez participer, vous joindre à nous, avancer avec nous. Tout ce que nous faisons poursuit cet objectif-là. Et nous sommes appelés, nous, à examiner ce que nous faisons, ce que nous mettons en place devant l'Église, afin que ça poursuive cet objectif-là, d'accord? Deuxième épisode, deuxième prédication, on a vu ensemble que l'upgrade dont il est question, c'est de parvenir à la stature parfaite de Christ. Non seulement Dieu nous sauve par grâce, mais par sa grâce opérante en nous, il veut nous transformer une fois que nous sommes sauvés pour ressembler de plus en plus à Jésus-Christ. Il n'est pas satisfait de nous sauver et de nous inviter avec lui pour l'éternité. Il veut que nous devenions de plus en plus heureux en ressemblant à Jésus-Christ, que nous apprenions à voir sa bonté, sa sagesse, sa douceur, sa grâce, sa sainteté, sa foi. On a dit donc que l'upgrade est pas mal majeur. On parle d'une grosse mise à niveau. Parce qu'on parle de prendre les personnes que nous sommes actuellement, aimant Dieu, mais tellement imparfaits, pour nous amener de plus en plus à la ressemblance de Jésus-Christ. Ça, c'est l'objectif, c'est notre destination finale, à la stature parfaite de Christ. Et tout ce que nous cherchons à mettre en œuvre, mettre devant vous, poursuit cet objectif-là. La décision que chacun d'entre nous, on a à prendre est, est-ce que j'entre dans le projet de Dieu? Si je le regarde de ma perspective à moi, c'est majeur, c'est écrasant, c'est énorme parce que chaque jour, je suis confronté avec mes propres faiblesses et j'ai de la difficulté à croire que Dieu peut faire ça dans ma vie. Mais lorsque je prends le temps d'ouvrir la parole de Dieu et de voir qu'il s'agit du projet de Dieu, c'est lui qui m'a racheté, c'est lui qui est venu mourir sur la croix pour mes péchés, c'est lui qui veut me transformer et il s'est engagé à le faire. La question pour ma part et chacun d'entre nous, c'est est-ce que j'embarque dans le plan de Dieu? Est-ce que j'embarque dans le projet de Dieu ou est-ce que je vais résister à l'œuvre que l'Esprit veut faire? Je peux rester assis là longtemps à résister à l'œuvre que l'Esprit de Dieu veut faire. Dieu s'est engagé à partir du moment où vous avez saisi l'Évangile à vous transformer de plus en plus, vous sanctifier, vous amener à ressembler de plus en plus à Jésus-Christ. Est-ce que vous embarquez avec Dieu? Est-ce que vous collaborez avec l'Esprit-Saint? Ou est-ce que vous résistez à l'œuvre que l'Esprit veut faire? Et ça, c'est une décision individuelle. C'est une décision qui relève de chacun d'entre nous. C'est son projet. On avance là-dedans par la foi, mais on doit dire amen. On doit collaborer avec ce qu'il veut faire. Et vous connaissez probablement des domaines où actuellement, laissez-moi le dire comme ça, vous êtes en négociation avec Dieu. Dieu vous a dit qu'il voulait travailler tel domaine, puis vous n'êtes pas certain que vous voulez laisser le Seigneur rentrer dans ce champ-là, dans ce domaine-là. Troisième épisode, unité et diversité. Notre unité se trouve en Jésus et notre diversité est notre richesse. C'est clair dans Éphésiens 4, je vous ramène dans le passage d'Éphésiens 4. Le corps va être édifié, l'église locale va être édifiée par la participation de chacun des membres selon la force qui convient à chacune de ses parties. Voyez-vous, cette transformation à la stature parfaite de Christ, ce n'est pas un projet individuel. Le projet de Dieu, ce n'est pas premièrement de faire une super Karine, un super Jean-Pierre, une super Esther, un super Yannick. Le projet de Dieu, c'est premièrement de faire une super communauté qui ressemble à Christ. Et donc, c'est dans la mesure où cette diversité de dons, d'histoires, de passés, de cultures, de personnalités sont rassemblées autour d'une personne, Jésus-Christ. C'est lui qui nous unit. Dans la mesure où nous convergeons, nous courons tous après cette personne que nous voulons saisir et ressembler, que nous allons nous édifier les uns les autres. Ainsi, la diversité qu'il y a ici et tous les accrochages que ça amène, les différends, les désaccords, les opinions divergentes, toutes ces choses ne sont pas des facteurs qui nuisent à notre transformation. Ce sont des choses qui contribuent à notre transformation pour que nous ressemblions de plus en plus à Jésus-Christ. Les relations au sein du corps de Christ sont fondamentales à la transformation. La tentation est énorme pour nous de se retirer lorsqu'on commence à être trop inconfortable au milieu de ces relations-là. De nous retirer, de commencer à juger l'Église. « Ah, l'Église, c'est comme ci, l'Église, c'est comme ça. » L'Église, c'est l'épouse de Christ pour laquelle il est mort. Son projet, c'est une communauté de croyants, pas un super Joe Blow. Et je dois détourner le regard de moi-même pour comprendre que ma transformation va se faire dans la mesure où je suis engagé dans ces relations. Nous allons garder notre unité si nous cherchons cette unité autour d'une personne, Jésus-Christ. Pas un programme. Pas un pasteur en avant, pas un nom d'une assemblée, une personne, Jésus-Christ. Quatrième, on a vu avec Hugo l'importance d'offrir nos corps comme un sacrifice vivant pour entrer dans ce service. Si les relations sont importantes et si nous avons chacun des dons, dans quelle mesure allons-nous les mettre au service du corps? Dans la mesure où on va se rappeler pourquoi on est en train de servir. Ce que j'ai apprécié le plus dans ce qu'Hugo a apporté, c'est qu'il nous a rappelé que notre motivation, ce n'est pas la religion, ce n'est pas par légalisme, ce n'est pas par devoir, c'est motivé par les compassions de Dieu que nous allons répondre en offrant nos corps. ce qui nous motive à nous offrir et à nous servir les uns les autres, à prendre soin les uns des autres, ce sont les compassions de Dieu. C'est l'évangile de Jésus-Christ, c'est sa grâce qu'il nous a offerte en Jésus-Christ de nous pardonner, qui nous donne toute notre motivation pour nous offrir. Trouver ma place au sein du corps, trouver mes dons, trouver ce que moi j'ai à apporter et servir le corps. Pourquoi est-ce que je le fais? Pas par devoir. Pas premièrement parce que je fais partie d'une religion. Pas parce que c'est écrit dans les Écritures que je dois le faire premièrement. Mais premièrement, d'abord et avant tout, parce que Christ est mort pour moi. Parce que je retourne à l'amour de Christ et c'est motivé par ses compassions que je vais me donner à mon tour. C'est juste dans cette mesure-là que l'amertume ne viendra pas gruger mon cœur lorsque je commence à trouver de l'indifférence. Je commence à trouver que les gens ne sont pas très reconnaissants pour ce que je fais. Les relations sont difficiles. Chaque fois que je retourne aux compassions de Dieu, mon égard, je puise en Christ, dans l'Évangile, dans les compassions que Dieu a manifestées en envoyant son Fils mourir sur la croix pour moi. Je puise là toute la force nécessaire pour continuer à offrir ma vie, mon temps, mon énergie pour servir Dieu, servir l'Église. Amen. La semaine dernière, on a vu ensemble, là, je suis vraiment dans des super titres francophones, Caring, Training, Coaching, c'est certain que je vais avoir un petit peu de backfire, juste pour rester dans le... En français, c'est bon? La semaine dernière, ce qu'on a vu ensemble à travers le caring, le training, on a vu ensemble le conseil de Jéthro. Comment est-ce qu'on le fait ici? Comment est-ce qu'on prend soin les uns des autres? Bien, on essaie d'appliquer ce conseil tellement sage que Jéthro a donné à Moïse. Jéthro a dit à Moïse, écoute, ça n'a aucun bon sens si tout le monde reste en ligne devant toi, Moïse, puis tu essaies de faire le super-héros qui va conseiller tout le monde. Tu n'es qu'un homme, Moïse. Amen. Mais moi aussi. Les anciens aussi, chacun d'entre nous ici. Et donc, on veut appliquer le conseil de Jéthro en comprenant que Jéthro a dit à Moïse, subdivise le peuple de Dieu en petits groupes. Trouve des hommes qui ont une sagesse, qui peuvent les conseiller. Ils n'ont pas des réponses à tout. Peut-être que les questions se rendront jusqu'à toi éventuellement, mais commençons là. Et ce qu'on a vu ensemble la semaine dernière, c'est que ce conseil est d'autant plus sage lorsqu'on arrive dans le Nouveau Testament, puisque nous avons tous reçu l'Esprit de Dieu. Et donc, si à l'époque de Moïse, Moïse pouvait espérer trouver quelques hommes sages pour diriger des groupes de 10, nous pouvons espérer trouver des gens qui ont reçu l'Esprit Saint ici, qui ont des dons spirituels, qui sont appelés à se conseiller les uns les autres, à s'écouter les uns les autres, à prier les uns pour les autres. Les petits groupes dans cette assemblée, c'est notre manière d'appliquer ce principe, ce conseil de Jéthro, tellement important. Et je pense que j'ai tapé le clou pas mal fort la semaine dernière. Si on ne veut pas retourner à un ancien paradigme que plusieurs d'entre nous on a connu, où on était appelé à avoir une relation avec un personnage, le holy guy en avant, le curé. Si on ne veut pas retourner là, mais si on veut rester dans la pensée de la parole de Dieu, il faut exposer le peuple de Dieu au peuple de Dieu. Il faut vous regrouper en petits groupes pour que vous puissiez vous conseiller, vous supporter, vous encourager les uns les autres, plutôt que de cultiver cette espèce d'image qui a un gars en avant qui est branché sur Dieu. Si j'ai une réponse de lui, si lui prie pour moi, oh! C'est profondément non biblique comme pensée. Et toute église qui cultive cette espèce de culte de la personnalité est en train d'attaquer ce principe fondamental de la parole de Dieu. J'ai parlé brièvement de training, de formation, sans même citer le passage de 2 Timothée 2:2, je sais. Mais on voit dans la parole de Dieu qu'une des manières qu'on se reproduit et qu'on forme, c'est d'avoir des gens à côté de nous qui sont en train d'observer ce que nous faisons. Je vais développer ça un peu plus ce matin. Mais la semaine dernière, comment je voulais l'appliquer? Le principe de 2 Timothée 2:2, où Paul dit à Timothée, « Ce que tu as vu chez moi, ce que tu as entendu de moi, ce que tu as reçu de moi, confie-le maintenant à d'autres hommes qui vont être fidèles pour eux autres pouvoir le confier à d'autres hommes. » Et on voit dans la parole de Dieu que Moïse avait un Josué à côté de lui, qui l'observait constamment. Et je suis certain que des fois, à la fin d'une journée, lorsque Moïse commençait à s'écraser, à s'asseoir puis à se reposer, des fois Josué devait se tourner et dire « Moïse, est-ce que je peux te poser une question? Tout à l'heure, il y a telle personne qui est venue, il y avait telle situation, puis j'ai vu que tu l'as comme laissé un peu avec la situation. Tu n'as pas donné toutes les réponses. Puis la personne a semblé partir un peu confuse. Pourquoi est-ce que tu as fait ça? J'aurais aimé ça être là. Puis juste entendre Moïse dire, oui, mais regarde ce que la parole de Dieu a dit ici. Là. cette personne-là doit aller examiner son cœur. Et donc, Moïse avait son Josué à côté de lui, qui était en fait son serviteur. Mais parce qu'il a été son serviteur pendant tant d'années, après ça, il a dirigé. Vous savez quoi, le moment le plus évident pour moi où j'ai vécu ça dans mon cœur, c'est lorsque le pasteur Claude Beaulieu est venu diriger l'Assemblée ici. Puis Claude était un homme d'action, moi je suis un homme de pensée, lui c'était un homme d'action. Puis à un moment donné, je le regardais aller, puis il trouvait que j'étais pas mal dans mes bouquins. Puis à un certain moment donné, je suis entré en moi-même, j'ai analysé, puis j'ai dit, si je ne suis pas Claude, si je ne le suis pas, il va avoir l'impression que je ne suis pas en train d'entrer dans le service avec lui. J'ai pris un petit peu moins de temps dans les bouquins, je me suis collé à lui et je l'ai regardé servir. Je suis devenu son serviteur et j'ai appris en le regardant. Bien, Paul avait ses Timothées autour de lui qu'il examinait et Jésus a dit à ses disciples, « Suivez-moi. » Et ces hommes-là le servaient. Alors, le principe que je veux prendre ici, je ne suis pas encore dans la formation de disciples, c'est que toute l'Assemblée, quoi que ce soit que vous soyez en train de faire, quel que soit le ministère où vous servez, vous devriez vous demander qui est mon Timothée, qui est ma Timothée actuellement. Qui est à mes côtés en train d'apprendre? Vous allez faire une visite, vous allez voir un frère, vous servez dans un ministère, vous prenez un temps d'intercession. Est-ce que vous pouvez avoir quelqu'un à côté de vous qui est en train d'apprendre en vous regardant? Parce que c'est comme ça qu'on forme selon les Écritures. C'est en regardant une personne, un homme, une femme de Dieu, là où il est rendu avec ce qu'il a donné, et on apprend en le regardant. C'est comme ça que ça fonctionne. Et nous devrions tous être en train de chercher ces opportunités pour avoir un Timothée, une Timothée à côté de nous qui regarde. Ça n'a pas besoin d'être la personne qui va prendre la relève de votre ministère. Je ne pense pas que lorsque Moïse a pris Josué à côté de lui, Moïse avait en tête, il a regardé Josué et il a dit, « Moi, je vois dans cet homme-là un homme absolument extraordinaire. C'est sûr, il peut prendre la relève. Tout va bien aller. » En fait, plus simplement que ça, je peux vous dire que lorsque j'ai commencé à servir des pasteurs dans l'église pour apprendre en les regardant, plusieurs d'entre eux étaient pour le moins sceptiques de ce que Dieu pouvait faire avec moi. Moi, je le suis encore. Est-ce que c'est vraiment important? Alors, peut-être que vous ne voyez pas quelqu'un à côté de vous qui peut prendre la relève de ce que vous faites. Ce n'est pas important. Est-ce que vous êtes capable de trouver quelqu'un qui veut apprendre? C'est tout. Laissez le Seigneur faire grandir. Laissez le Seigneur vous surprendre. Et vous allez voir des personnes qui ne semblaient pas prometteurs, mais ce n'est pas comme ça que nous choisissons les gens dans cette église, selon Dieu. On ne choisit pas les gens selon l'image qu'ils projettent, puis ils ont de l'air super compétents, puis impressionnants, puis ils savent parler, puis ils savent diriger. C'est tellement secondaire aux yeux de Dieu. Moïse n'a pas été choisi comme ça. Il ne savait pas parler. Tout ce qu'on veut, c'est un cœur qui veut servir, puis on l'invite à entrer avec nous. C'est tout. Et Dieu fait des choses extraordinaires avec un cœur semblable. Training. Cette semaine, on parle maintenant du coaching ou la formation de disciples, si vous préférez. On peut l'appeler la formation de disciples. La semaine prochaine, je vais terminer la série avec un dernier élément. Et ensuite de ça, je vais faire une courte série. D'accord? Avec cette série, je voulais placer devant vous ce que nous faisons ici, certaines valeurs importantes. Je ne parle pas de tout, hein? Je n'ai pas parlé de la jeunesse, je n'ai pas parlé d'un paquet d'affaires. D'accord? Mais certaines valeurs très importantes que nous faisons. Dans la prochaine série, je vais vous parler de ce que nous ne faisons pas et qu'on devrait commencer à faire sérieusement ici. Ça, c'est pour la prochaine série. Ce matin, on parle de coaching ou de formation de disciples. Et on pourrait avoir l'impression, justement, qu'en parlant de 2 Timothée 2:2, de training, on est en train de parler de formation de disciples. Je vais en parler de manière plus globale. Je vais vous présenter brièvement ce que nous faisons ici pour former des disciples de Jésus-Christ. Non seulement former quelqu'un dans un ministère où je suis en train de travailler, mais faire de lui, faire d'une personne un disciple de Jésus-Christ. Comment est-ce qu'on fait un disciple de Jésus-Christ dans cette assemblée? Matthieu 28, 19, 18 à 20. Jésus s'étant approché, leur parlant ainsi. « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Dernière prédication de la série sur Matthieu, c'est quoi le titre? Go! Allez-y maintenant, c'est à notre tour d'entrée. Et l'évangile de Matthieu se termine comme sur une... Il n'y a comme pas de fin à l'évangile de Matthieu. Parce qu'à la toute fin, Jésus nous dit, OK, maintenant c'est à vous, allez-y. Je vous confie ça. Allez. Premier élément qu'on voit dans le passage ici, c'est ce commandement d'aller vers eux, aller vers toutes les nations. Comment est-ce qu'on fait ça dans cette assemblée? Si on doit faire de toutes les nations des disciples, nous devons aller vers eux. On va devoir entrer en relation avec eux. Chacun d'entre nous, on est appelé à le faire dans notre vie personnelle, évidemment. Vous êtes appelé à aller vers des collègues de travail, vers la famille, vous afficher, leur annoncer la bonne nouvelle. Mais depuis quelque temps, on a un beau ministère qui est en train de grandir, qu'on appelle la fusion. Alexandre est en train de le développer. Et donc, on veut aller vers ceux qui viennent vers nous. Et il y a des gens qui viennent nous visiter ici le dimanche matin. On veut aller les rencontrer, on veut aller les voir, on veut aller les visiter. Certains d'entre eux ne connaissent pas encore le Seigneur. Ils ont entendu parler de Jésus-Christ, de la grandeur de Christ, mais ils ne le connaissent pas encore personnellement. Et déjà, aller vers ceux qui viennent vers nous, ça va être d'aller vers eux, d'aller prendre du temps avec eux à travers le ministère de la fusion qu'on est en train de développer ainsi. Chaque semaine, il y a des gens qui sont visités par des équipes de ce ministère. Certaines d'entre elles sont déjà au Seigneur, on les aide à s'intégrer dans l'Église. D'autres ne connaissent pas encore le Seigneur. C'est une des manières que nous allons dans cette assemblée. Vous avez entendu parler tout à l'heure du petit groupe qui est en train de se former autour de Bouffe pour tous. Un des grands dilemmes que nous avons dans nos cœurs avec cette banque alimentaire qu'on a ici, mais c'est qu'on distribue des aliments et quelques personnes qui sont là régulièrement, comme les Gravel, François et Charity et quelques autres, essaient d'apprendre à connaître les gens qui viennent bénéficier de cette aide qu'on apporte. Donc, il y a quelques personnes qui essaient d'entrer en relation avec eux pour vraiment pouvoir leur partager l'Évangile, leur partager l'amour de Christ, apprendre à les connaître. Cette équipe n'est pas assez grande. Et ce que ça donne comme résultat, c'est que depuis plusieurs années, comme assemblée, n'est-ce pas, on a le sentiment qu'avec Bouffe pour tous, on donne des légumes. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? On donne des légumes, on donne du pain. Puis après ça, on dit à la prochaine. On donne des légumes, on donne du pain. C'est le sentiment qu'on a. Et c'est épuisant et c'est triste parce qu'il y a quelque chose comme 60, 70 familles qui viennent ici chaque semaine pour recevoir notre aide. 60, 70 familles avec qui on peut entrer en relation. 250 personnes qui viennent ici, qu'on peut apprendre à connaître. Et donc, ce qu'on est en train de faire, Michel va venir donner la direction du petit groupe, mais il y a vraiment une équipe de leadership autour de lui. Alors, on a un des anciens qui va aller conduire ça, mais ce qu'on veut faire, c'est mettre sur pied un petit groupe qui va venir vivre l'Évangile devant ces gens-là, leur annoncer l'Évangile de Jésus-Christ. Par exemple, une belle initiative de Charity de François depuis quelques temps, c'est qu'avant la distribution, ils préparent un repas, ils prennent un repas avec les bénévoles qui viennent aider. Certains d'entre eux sont au Seigneur, d'autres ne le sont pas. Et donc, ils mangent ensemble. Ils prennent du temps ensemble. Ce petit groupe-là va travailler à proclamer, à annoncer l'Évangile de Jésus-Christ, mais aussi à vivre l'amour les uns pour les autres devant eux. Et c'est pour ça qu'on veut mettre un petit groupe là. On va avoir un groupe d'une vingtaine de personnes qui va être là et qui va vivre l'Évangile aussi. C'est une chose d'aller, c'est une chose de proclamer, c'est une autre chose de vivre l'Évangile. Jésus a dit, c'est à l'amour que vous avez les uns pour les autres qu'ils sauront que vous êtes mes disciples. Il y a des gens là-bas qui vont entendre le message, qui vont dire, ah peut-être. Peut-être qu'eux autres ont trouvé ce vrai Dieu. Je vais commencer à les fréquenter un peu. Je vais commencer à prendre du temps avec eux. Et ils vont aller à une rencontre du petit groupe. Ils vont aller faire une activité avec eux. Ils vont aller prendre du temps avec eux. Ils entendent le message de l'Évangile, mais ils veulent voir si cette histoire-là, c'est vrai. Ils veulent voir si cet Évangile amène des changements dans la vie. Alors, on annonce, on proclame. Le petit groupe va proclamer l'Évangile, mais le petit groupe va vivre l'Évangile devant eux aussi. Est-ce que ça amène comme transformation dans nos vies, dans nos relations? Ils vont aller voir des rencontres de petits groupes où il y a des gens qui partagent des fardeaux, des soucis, des gens qui confessent une difficulté, un péché. Et ils vont voir ce qu'est l'Évangile dans la vie d'un croyant, dans la vie du corps de Christ. C'est une des manières qu'on va aller vers eux à travers ce petit groupe de Bouffe pour tous. C'est d'autres projets qu'on a similaires avec d'autres moyens, entre autres comme les clubs pour enfants avec Prof Dino. Aller, c'est inviter les gens au spectacle de Noël, au témoignage de Vendredi Saint, comme on l'a fait cette année avec Tony Anthony. Alors voyez-vous, aller, c'est toutes sortes de manières, mais ce que ça demande, c'est certain, c'est qu'il faut bouger. C'est impossible de vivre aller sans bouger. Êtes-vous d'accord avec moi? C'est pas rester, vous êtes d'accord? Alors, je ne sais pas où est-ce que vous êtes actuellement, qu'est-ce que vous faites, mais le commandement est clair, allez. trouver une place pour aller vers eux, entrer en relation avec eux. Aller veut souvent dire aussi d'inviter les gens à entrer dans notre vie. D'accord? Il ne suffit plus, on n'est plus dans les années 70, on doit encore aller vers des portes, on doit aller encore dans des parcs, mais il ne suffit plus que de faire ça. Il faut aller vers les gens et les inviter à entrer dans notre vie. Il faut les inviter à manger chez nous. Il faut les inviter à nous voir parler avec nos enfants, à nous voir parler avec notre épouse, à nous voir entrer les uns avec les autres en relation. Aller veut souvent dire d'inviter les gens à entrer dans nos vies. Maintenant, Jésus dit ici, faire des disciples à partir de toutes les nations. Je vous donne une citation de James Kennedy, qui a écrit le livre d'évangélisation explosive dont on sert. Voici ce qu'il dit. « Le grand mandat nous commande non seulement d'évangéliser, mais aussi de faire des disciples, présenter l'Évangile. » Quand on parle de coaching et de formation de disciples, si vous voulez aller à la prochaine acétate, s'il vous plaît. Quand on parle de coaching, de formation de disciples, souvent la première pensée qui nous vient, c'est prendre un chrétien et faire de lui un disciple de Jésus-Christ. Êtes-vous d'accord avec moi? Alors, on fait cette espèce de division, de distinction dans notre tête. Je vais aller évangéliser des inconvertis dans notre jargon évangélique, puis je vais faire des disciples avec des convertis. C'est ça? Mais est-ce que c'est ça que Jésus vient de dire? Allez, faites de toutes les nations des disciples. Faire des disciples, c'est prendre quelqu'un qui ne connaît pas Jésus-Christ, lui annoncer la bonne nouvelle, par la grâce de Dieu, prier pour que cette personne saisisse l'Évangile, l'aimer, lui témoigner de l'amour de Christ, vivre l'Évangile devant lui. Et quand Dieu opère le miracle, quand cette personne passe par l'expérience de la nouvelle naissance, on continue la formation de disciples. Ainsi, la formation de disciples, ce n'est pas distinct de l'évangélisation, mais c'est une continuité de ce témoignage que nous avons envers les gens. Faire des disciples, c'est aller vers les nations, c'est aller vers les non-chrétiens, prier pour eux, leur annoncer l'Évangile. Et quand l'un d'eux, l'une d'elles, se convertit à Jésus-Christ, saisit l'Évangile, on continue la formation de disciples. Et on ne devrait pas faire de distinction entre les deux, on ne veut pas la faire dans cette assemblée. Allez leur annoncer la bonne nouvelle. Aller vers eux, c'est quoi? C'est leur annoncer la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Alors, une des choses importantes dans cette assemblée, c'est que selon nous, toute personne qui est née de nouveau devrait être capable de présenter l'Évangile. Toute personne qui est passée par la nouvelle naissance, bien, on présume qu'elle a compris l'Évangile. Amen. On ne croit pas dans cette assemblée que tu peux te convertir sans comprendre la bonne nouvelle du salut en Jésus-Christ. On ne croit pas ça. Parce que les Écritures n'enseignent pas ça. Il faut saisir Christ, il faut comprendre son œuvre pour devenir chrétien, saisir l'Évangile. Maintenant, nous croyons que tous ceux qui ont saisi l'Évangile peuvent être équipés à annoncer la bonne nouvelle du salut en Jésus-Christ. Et une des choses que nous faisons, c'est que nous donnons de la formation. Pendant trop longtemps, ça se faisait sporadiquement depuis qu'Hugo était parti implanter l'Église à Rivière-du-Loup. C'est pour ça que nous avons priorisé la mise en place d'un pasteur qui se consacre une bonne partie de son temps. Ça, c'est Alexandre. Alors, il y aura toujours, par la grâce de Dieu, de la formation ici, le dimanche matin de 9h à 10h, pour vous équiper à annoncer la bonne nouvelle. C'est une chose de le saisir, c'est une autre chose d'apprendre à l'exprimer. Et notre ambition, c'est que chacun d'entre vous, vous soyez en mesure de présenter la bonne nouvelle du salut en Jésus-Christ. Actuellement, Alexandre se sert d'un excellent outil, EE, évangélisation explosive. La beauté dans ça, c'est que ce n'est pas que de l'information qu'on donne. Vous prenez le cours et vous allez le faire. Il y a une sortie à chaque semaine pour présenter l'Évangile. Ça va affermir vos convictions, ça va affermir votre compréhension. Écoutez, ne serait-ce que pour être en mesure de bien annoncer l'Évangile à vos enfants et à vos petits-enfants. Ensuite de ça, aux collègues de travail, à la famille et à ceux que Dieu va placer devant vous. Allez, demande d'annoncer la bonne nouvelle du salut en Jésus-Christ, de le saisir, de le comprendre et d'être capable de l'articuler. Ensuite de ça, Jésus dit les baptisants. Dans cette assemblée, nous ne croyons pas que tu as besoin de vivre 2, 3, 4, 5 ans de vie chrétienne avant de passer par les eaux du baptême. On ne pense pas que le baptême, c'est un témoignage que tu es rendu. Tu sais, l'upgrade est terminé, je ressemble maintenant à Christ, je peux me faire baptiser au nom de Jésus-Christ. Pas du tout. Le baptême, c'est un des premiers pas qu'on fait pour s'identifier publiquement à Jésus-Christ. Lorsque je passe par les eaux du baptême, je suis en train d'annoncer une image. Je suis immergé parce que je reconnais que ma vie à moi n'est pas suffisante pour entrer au ciel. Mais je viens mourir à moi-même et me cacher en Jésus-Christ. Et je ressuscite spirituellement avec Jésus-Christ. C'est ça le baptême. Et donc, nous croyons que les gens, quelques mois après qu'ils aient passé par la nouvelle naissance, doivent se préparer pour passer par les eaux du baptême. Dès qu'on voit que la personne a bien saisi l'Évangile, on est prêt à la baptiser. C'est pourquoi on a des cours régulièrement, pratiquement de manière continue le dimanche matin de 9h à 10h. Actuellement, dans l'Assemblée, il y a une dizaine de personnes qui sont en train de se préparer pour le baptême. Dans les prochaines semaines, vous allez voir régulièrement des baptêmes. Mon rêve, ma vision, c'est qu'on ait des baptêmes presque à toutes les deux semaines ici. Continuellement qu'on ait des baptêmes. Pour ce qui est des plus jeunes, pour ce qui est de ceux qui connaissent le Seigneur en bas âge, nous avons comme habitude dans cette assemblée d'attendre de voir que le témoignage est assez clair, souvent vers le milieu de l'adolescence ou quelque chose comme ça, pour pouvoir parler avec l'enfant puis vraiment être convaincu que c'est sa foi à elle, que c'est sa foi à lui, pas celle de ses parents. Parce qu'on croit que le choix de marcher avec Jésus-Christ, c'est un choix personnel et individuel. Donc, j'instruis mes enfants dans la foi. Pour ma part, je vois mes enfants professer Jésus-Christ par la grâce de Dieu. Je pense qu'ils ont déjà saisi l'Évangile. On va leur donner quelques années encore, voir vraiment que c'est leur foi à eux, c'est pas celle de papa-maman. Les laisser entrer dans les épreuves de la vie pour pouvoir éprouver vraiment leur compréhension et leur adhésion à Christ. Et dans la mesure où ils vont être prêts, on va les faire passer par les eaux du baptême. Pas besoin d'avoir 20 ans, pas besoin d'avoir 25 ans, mais nous avons cette habitude d'attendre un peu pour voir que c'est bien une foi personnelle. Les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Notre mandat, c'est de leur enseigner à observer tout ce que Christ a prescrit. Cela implique que nous allons non seulement informer les hommes sur ce que Jésus-Christ a enseigné, mais nous allons apprendre aux hommes et aux femmes à observer ces choses. Le mot grec qu'il y a là pour observer, c'est cette idée de garder. C'est le langage qu'on employait pour parler d'un gardien qui garde ses yeux fixés. Je dois protéger quelque chose. Je suis un gardien. Je dois garder les regards fixés. Christ nous dit que notre rôle à nous, notre mandat, c'est d'enseigner à un homme, à une femme, à garder les yeux fixés sur les commandements qu'il a donnés pour pouvoir les appliquer dans sa vie, les garder dans sa vie. Il y a vraiment cette idée d'observation. Alors, le mandat qui nous est donné, ce n'est pas juste de donner des cours. C'est de nous assurer que la personne qui professe le nom de Jésus-Christ vit dans la réalité comme un disciple de Jésus-Christ. Ce n'est pas seulement que la personne puisse passer un examen oral ou un examen écrit, un examen théorique, donner toutes les bonnes réponses. On ne forme pas des disciples avec des gens qui connaissent toutes les bonnes réponses. On forme des disciples avec des gens qui vivent selon les bonnes réponses. Amen. C'est des gens qui ont appris à appliquer les principes. Christ n'a pas dit, « Dites que vous aimez vos ennemis, aimez-les! » J'ai formé un disciple de Jésus-Christ dans ce domaine-là lorsque je le vois aimer un de ses ennemis. Au flot, on est rendu. Il est en train d'observer ce que Christ a prescrit. Maintenant, ça implique quelque chose. Et c'est constant dans le modèle de Jésus. Ça implique que former un disciple de Jésus-Christ passe par un principe d'imitation. Ça revient un petit peu à ce que je disais tout à l'heure avec 2 Timothée 2:2. On forme un disciple de Jésus-Christ en appliquant un principe d'imitation. Ils doivent observer dans ma vie ce qu'ils sont appelés à reproduire dans leur vie. Il ne suffira pas de faire le maître et son disciple avec eux. Il va falloir qu'ils m'entendent confesser. Il ne suffira pas de faire le maître et son disciple avec eux. Il va falloir qu'ils voient comment je lis les Écritures. Il ne suffira pas de parler des épreuves qu'il y a dans la vie chrétienne. Il va falloir qu'ils me voient traverser des épreuves dans ma vie chrétienne. C'est un principe d'imitation. C'était constant dans la vie de Jésus. Pensez à ce que le Seigneur a dit. Il dit à ses disciples, « Suivez-moi et je vous ferai pêcheurs d'hommes. » Ils ont été premièrement des observateurs de Christ avant d'être des imitateurs de Christ. L'apôtre Paul dit dans 1 Corinthiens 11, les versets 1 et 2, « Soyez mes imitateurs comme je le suis moi-même de Christ. » Je vous loue de ce que vous vous souvenez de moi à tous égards et de ce que vous retenez mes instructions telles que je vous les ai données. » Alors, Paul est content de dire, « Vous êtes en train de m'imiter, sachant que j'imite Jésus-Christ. Je vous ai donné des instructions, mais vous les gardez, vous les appliquez dans vos vies. Vous êtes mes imitateurs. » Paul dit ensuite dans Philippiens 3, 17, « Soyez tous mes imitateurs, frères. Portez les regards sur ceux qui marchent selon le modèle que vous avez en nous. » Paul est en train de dire, « Dans votre assemblée, il y a des hommes, il y a des femmes qui sont eux-mêmes des imitations de Paul, qui était lui-même une imitation de Christ. Il y en a parmi vous. Portez votre regard sur eux. Regardez-les marcher, regardez-les vivre, regardez-les réagir. » Nous croyons, dans cette assemblée, que la formation de disciples, c'est davantage que donner un cours. C'est prendre quelqu'un avec nous qui nous observe vivre. C'est comme ça qu'on fait avec nos enfants, non? N'importe quel parent sait que s'il dit à son enfant, « Fais ce que je dis, mais fais pas ce que je fais », il est en train d'apprendre à son enfant à être un hypocrite. N'importe quel parent sait ça. Mais c'est la même chose au niveau de la formation de disciples. Nous croyons dans cette assemblée que nous formons des disciples de Jésus-Christ en exposant notre vie aux gens. Vous m'entendez constamment vous partager des difficultés, des combats que j'ai, des imperfections que j'ai dans ma vie, parce que pour moi, je ne gagne absolument rien en vous faisant croire que moi, je suis fait d'une autre nature que vous. Vous entendez ça dans ma prédication, c'est vrai? Moi, je gagne absolument rien à vous faire à croire à vous que je suis fait d'une autre nature que vous. J'ai besoin que vous soyez absolument convaincus que, dans le fond, je suis aussi pécheur que vous. Simplement, la grâce est opérante dans ma vie. Puis peut-être qu'il y a quelques éléments à imiter dans ma vie. C'est ce que nous croyons dans cette assemblée. Ainsi, nous faisons la formation de disciples à travers les petits groupes. Les petits groupes sont importants parce que les gens vont vous entendre partager un combat au travail, une lutte, une difficulté avec votre patron. Les gens dans le petit groupe vont vous entendre parler de votre difficulté à vous nourrir dans la parole de Dieu, votre difficulté des fois à être fidèle, votre victoire pour témoigner à quelqu'un, une victoire dans la prière. Vous êtes en train de vivre votre foi un peu ouvertement dans un petit groupe. Et il y a de jeunes croyants qui sont là, qui sont en train d'écouter et d'observer. Ainsi, nous formons des disciples à travers les petits groupes. Dans les petits groupes, ils vont être encouragés en voyant la vie chrétienne normale. Les défis de la vie chrétienne, prier ensemble, ouvrir la Bible ensemble, voir l'amour de Christ à l'œuvre. Conseiller pour leur croissance spirituelle. Quand quelqu'un se joint dans un petit groupe, il va recevoir des conseils pour grandir dans sa foi. Nous formons les disciples à travers les cours bibliques aussi. C'est certain qu'il y a un élément où on est en train de donner de l'information. On est en train d'enseigner ce que Christ a prescrit. Et c'est pour ça que le tronc de 9h à 10h est tellement important dans cette assemblée. Je vous le dis, il y a la moitié des gens qui sont ici ce matin, vous n'êtes pas là de 9h à 10h. Il y a une grande partie du ministère que nous essayons d'exercer envers vous qu'on ne peut pas exercer envers vous. Parce que c'est dans ce moment-là où nous vous disons, voici ce que Christ a prescrit. Voici comment vous devez lire la Bible. Voici comment comprendre la Bible. Voici comment marcher dans cette assemblée. Voici comment connaître Dieu. Voici comment se préparer pour le baptême. Voici comment annoncer l'Évangile. Ça se passe de 9 à 10. On forme des disciples dans cette église en vous enseignant ce que Christ a prescrit. D'une part, en donnant un modèle. D'autre part, en enseignant à travers les cours bibliques. De 9h à 10h. C'est là qu'on va préparer les gens pour le baptême. C'est là qu'on va donner le cours sur l'Église de l'espoir. Je ne sais pas comment m'intégrer dans l'Église de Christ. Je ne sais pas quels sont mes dons. Je ne sais pas comment servir. Je ne sais pas où va cette assemblée. Juste là, de 9h à 10h, dimanche prochain, le cours l'Église de l'espoir. Trouver ma place dans le corps de Christ. On va donner de la formation sur comment présenter la foi. Plein d'autres cours aussi. Petit verre d'eau, s'il vous plaît. Et on va apprendre à prier aussi, à intercéder. Oh, merci. Ça, c'est super. Thank you. Je peux boire dedans, c'est celui de mon épouse. S'il y a des visiteurs, on ne fait pas ça avec tous les membres. Merci, chérie. On va apprendre à prier ensemble, à intercéder ensemble. La semaine dernière, Sylvie est venue me voir. Sylvie prie avec les dames le dimanche matin. Puis Sylvie, elle m'a dit, « Mais Yannick, je ne savais pas, mais en partant ça, la prière des dames, je ne savais pas que j'allais devenir une Timothée. » parce que j'allais apprendre en voyant d'autres femmes prier. Alors voyez-vous, on va apprendre à prier aussi ensemble à travers les groupes de prière pour hommes et pour femmes. Dans cette assemblée, en terminant, on forme des disciples de Jésus-Christ en s'investissant dans une relation à moyen terme avec eux. Alors, une des choses qu'on fait dans cette église, c'est que une fois que quelqu'un a vraiment décidé de s'engager avec Jésus-Christ, une fois que quelqu'un a décidé de passer par les eaux du baptême, qu'on voit que la décision est sérieuse, on encourage les frères et sœurs à se regrouper par petits groupes de... Là, ce n'est pas les petits groupes, c'est vraiment la formation de disciples, 3 ou 4. On va appeler ça des triades ou des quads, d'accord? C'est-à-dire que moi, actuellement, je suis en train de me rassembler à toutes les 2 semaines avec Mathieu Ferland, avec Simon Guy, avec Jacob Ferland. À toutes les 2 semaines, nous nous voyons ensemble, on partage, on confesse et on trouve dans ce petit noyau-là, tout petit de 3-4, puis en plus on est entre gars, la liberté de partager des choses que je ne ferais pas dans un petit groupe, la liberté de partager des choses que je ne ferais pas ici. Et on confesse ensemble et on s'encourage et on lit des livres ensemble. Nous nous engageons ensemble à vivre dans la vie l'un de l'autre pendant 2 ans ensemble. On le fait dans un groupe de 3 ou 4. Pourquoi est-ce qu'on le fait? Au lieu de le faire comme dans bien des assemblées, un à un, nous le faisons à 3 ou 4 afin que rapidement les autres personnes commencent aussi à animer une partie des rencontres. Afin que rapidement les gens comprennent que si tu es chrétien, tu appliques ce commandement de confesser les péchés les uns aux autres, pas seulement quand tu as une relation privilégiée avec une personne. Moi, j'ai un confident, alors je peux m'ouvrir. Si je n'ai pas de confident, je m'ouvre seulement à Dieu. Je suis désolé, ce n'est pas comme ça que le Seigneur le voyait. Pas du tout. Pas du tout. Et à partir du moment où j'ai un groupe d'individus qui sont sérieux, qui sont prêts à me respecter dans mes combats, je peux m'ouvrir. Je n'ai pas besoin qu'on soit juste un à un. On le fait à 3 ou 4 aussi pour que les gens puissent commencer justement à animer. Quand tu t'investis dans la formation disciple avec une personne pendant 1 an, pendant 2 ans, et que tu enseignes, tu transmets, tu communiques constamment à cette personne-là, et tu arrives au bout de 2 ans puis tu dis « OK, maintenant j'aimerais ça que tu ailles faire la même chose. » Cette personne-là est sur un mode de réception pendant 2 ans. Jamais elle a repris, jamais elle a corrigé, jamais elle a enseigné, puis elle a dit « Tu veux que j'aille faire ce que toi tu fais avec moi depuis 2 ans? » Je ne suis pas capable. Toi, tu as un don pour ça. Toi, tu as un appel. Mais lorsqu'on est à 3-4, ce qui se passe, c'est qu'après la deuxième, troisième rencontre, je dis « OK, Jacob, c'est toi qui anime le partage sur la lecture. C'est toi qui vas nous diriger là-dedans. » Et puis, à un certain moment donné, je suis en train de conseiller un des gars, puis hop, Simon embarque là-dedans. Puis il dit « Mathieu, il me semble que moi, je verrais ça comme ça. » Et là, moi, je me tais. J'arrête. Simon commençait à enseigner. « Oh, c'est bon. J'aime ça. » Peut-être qu'il est impatient. Ça se peut que Mathieu me regarde et il dit. Mais peut-être qu'il a raison aussi. Moi, je me tais, je regarde. Là, Jacob embarque. Puis après ça, c'est Mathieu. Les gars s'enseignent. Après ça, après 1 an, lorsque je dis à Simon, c'est le temps, tu commences, mon homme. Commence à prier pour que Dieu te montre qui tu dois aller, avec qui tu vas te réunir. Ouais, mais Yannick, ça fait des années, là. Ça fait des années que toi, tu connais la Bible, que tu étudies les Écritures. Lorsqu'on parle, tu as plein de réponses. Je ne te demande pas d'avoir toutes les réponses. Je te demande de marcher avec eux. Et fais le pas de foi. Ah, quelques mois. Tu sais, c'est excitant, mais wow, est-ce que je suis capable de faire ça? Ah, mais Simon, tu le fais à chaque fois qu'on se réunit. Je te demande de faire la même chose que tu fais d'habitude. Tu auras un petit peu plus de responsabilité. Et donc, nous formons les disciples par groupe de 3 ou 4 dans cette assemblée. Et actuellement, il y a une 50aine de personnes qui s'assemblent aux 2 semaines dans des groupes de 3 ou 4 comme ça, qui sont en train d'être formés. Prochain coaching, tous ceux qui sont impliqués, je commence à parler justement de vos disciples qui doivent se reproduire. Parce qu'eux autres sont appelés maintenant à relever le défi. Mais par la grâce de Dieu, nous allons nous investir dans les vies des uns des autres comme ça. Et c'est comme ça que nous formons des disciples. Tranquillement, on est en train d'ajuster des choses aussi. Idéalement, essayer d'avoir les disciples qu'on forme dans notre petit groupe pour qu'ils voient davantage de notre vie. Et vous voyez, ce qu'on poursuit à travers ça, c'est d'être le plus près possible du modèle que Jésus a donné. Jésus voulait former un disciple et il dit « OK, prends ton baluchon, suis-moi puis viens vivre avec moi. » Maintenant, c'est un petit peu difficile. J'ai même pas osé proposer à Esther que les 3 gars viennent vivre chez nous. D'accord? J'ai même pas osé, d'autant plus qu'il y en a un qui est marié puis ils ont 3 enfants. On partira pas une commune, d'accord? On n'est pas rendu là, là. Mais on essaie de se rapprocher le plus possible d'une vie commune à travers la formation de disciples dans un même petit groupe, idéalement en train de servir des fois ensemble aussi. Et pendant un an, deux ans, je suis en train de déverser ma vie dans la vie de quelqu'un d'autre. Voilà comme ça, comment on fait de la formation de disciples dans cette assemblée. Nous allons vers eux, on apprend à leur annoncer la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Dès qu'ils ont cru en Jésus-Christ, qu'ils sont passés par la nouvelle naissance, on les fait passer par les eaux du baptême pour qu'ils témoignent publiquement de leur foi en Jésus-Christ. Ensuite de ça, on les aide à s'intégrer, ou c'est déjà fait même souvent dans des petits groupes, pour qu'ils puissent voir la vie chrétienne en action. On les invite à se joindre au cours le dimanche matin pour qu'ils puissent apprendre ce que Christ a prescrit. Et puis, dans la mesure du possible, on les invite à se joindre à une triade ou un quad de formation de disciples. Dernière citation de James Kennedy, j'ai trouvé ça excellent et ça exprime tellement bien ce qu'on poursuit. Toujours dans le cours d'évangélisation explosive, j'ai des plugs pour toi Alex ce matin. Ne mesurez pas vos compétences dans le domaine de l'évangélisation et de la formation de disciples d'après ce que vous apercevez dans la personne que vous avez évangélisée. Mesurez votre efficacité en vous basant sur vos petits-enfants spirituels. Lorsque tu as conduit quelqu'un au Seigneur, que tu as déversé ta vie dans la vie de cette personne-là et que cette personne-là commence à le faire avec quelqu'un d'autre, tu sais que tu as formé un disciple de Jésus-Christ. Amen. C'est ce que nous voulons faire en Église. Moi, je veux vous inviter ce matin à placer dans la prière pour savoir quelle est la part que vous avez à jouer dans la formation de disciples dans cette Église. Il y a au moins la moitié de cette assemblée actuellement qui pourrait commencer à former des disciples de Jésus-Christ, de la manière que je vous ai parlé là. Certains d'entre vous, Dieu ne vous appelle peut-être pas à le faire. Peut-être que c'est dans votre petit groupe que vous allez chercher juste à être attentif aux nouveaux croyants qui sont là. D'autres, vous avez des dons d'enseignants. Vous êtes appelés à vous impliquer dans l'enseignement le dimanche matin. C'est l'appel que Dieu a placé sur votre vie. Quelle est la part que vous avez à jouer pour embarquer avec nous dans le coaching et la formation de disciples? Et la semaine prochaine, on va parler de la formation de leaders. On va prier ensemble. Seigneur Jésus, ma joie et ma passion... Ma joie et ma passion après, Seigneur, de voir ce que tu fais dans ma vie à moi, c'est de voir ce que tu fais dans la vie de quelqu'un d'autre. Et c'est ma joie, Seigneur, de voir des hommes et des femmes se lever, te faire confiance pour entrer dans la formation de disciples, Seigneur. Accepter de s'exposer, d'exposer leur vie, d'exposer leurs imperfections. Accepter d'être véritablement intègre en vivant, en étant observé. Accepter de prendre les risques d'entrer dans la vie de quelqu'un, d'être blessé, déçu parce que cette personne pourrait abandonner la foi, se retirer, nous rejeter. Accepter de faire comme toi tu as fait, Jésus. Tu t'es investi dans tellement de vies et à un certain moment donné, il ne restait que quelques disciples autour de toi, Seigneur. Mais c'est ta méthode et on veut l'appliquer. Nous voulons aller vers eux, Seigneur, et nous voulons déverser notre vie dans leur vie. Nous voulons vivre cela en Église, Seigneur Jésus. Je demande de montrer à chacun et chacune ce matin où ils sont rendus dans cette chaîne de formation de disciples, Seigneur. Je demande de convaincre par ton esprit, Seigneur, afin que nous puissions atteindre cette ville pour Christ. Atteindre cette ville pour toi, Seigneur. Et on ne veut pas que des professions de foi, on veut faire des disciples, Seigneur. Je prie de lever cette assemblée afin qu'elle entre dans la formation de disciples, Seigneur. Et le faire par ton esprit, afin que ton nom brille dans une multitude de cœurs, dans une multitude de vies, Seigneur. C'est en Jésus-Christ que je te prie. Amen.